Les interviews du sel avec Daniel Hillion.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'émission sur les actualités du sel, une émission qui a été interrompue pendant un certain temps suite à la crise sanitaire que nous avons connue. La crise du coronavirus, et nous allons reprendre nos émissions en parlant de l'impact de cette crise pour le sel et pour les partenaires du sel, et aussi des réalisations qui ont pu avoir lieu et qui continuent à avoir lieu durant cette période. Alors pour parler de tout cela, je suis aujourd'hui avec Madame Véronique Lavoué, qui est directrice du département des projets de développement au sel. Madame Lavoué, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous dire quelques mots sur la manière dont la crise du coronavirus a impacté le sel ici en France, l'équipe de salariés du sel?
Nous, au sel, on a été comme tous les Français, confinés, chacun chez soi, dès les premiers jours du confinement, mi-mars. On s'est tous retrouvés à travailler à domicile, enfin tous, pratiquement tous retrouvés à travailler à domicile. Il y a eu quelques petits jours de calage au début où il a fallu s'organiser au niveau technique pour pouvoir continuer à travailler dans les meilleures conditions. Bon, il y a quelques personnes malheureusement qui n'ont pas pu télétravailler et puis qui ont été en chômage partiel, mais on a pu continuer nos activités, continuer à être en relation avec nos partenaires, avec nos parrains, avec nos donateurs. Et bon, on remercie vraiment aussi tous les donateurs du sel qui se sont tenus à nos côtés pendant cette période un peu particulière. Aujourd'hui, une partie du personnel est revenue à Bagneux, au bureau. Pas beaucoup, on commence tout doucement à sortir du confinement.
Alors, le sel, c'est une association de solidarité internationale, donc qui a son siège en région parisienne, mais qui soutient des actions qui sont dans des pays en développement. Pour ce qui concerne le département que vous dirigez, ce sont des projets qui sont essentiellement basés en Afrique francophone. Alors on entend que l'épidémie de Covid-19 est beaucoup moins répandue dans ces pays qu'en France, ou en Europe, ou en Asie ou en Amérique du Sud. Est-ce que ça veut dire que pour l'Afrique francophone, le danger est écarté? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a finalement que peu d'impact de cette crise sanitaire là-bas, ou est-ce qu'il faut voir les choses autrement?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, d'après les chiffres qu'on a, l'Afrique semble être moins touchée, et ça, on s'en réjouit vraiment. C'est une bonne chose que ce pays soit les moins touchés. Bon, après, les chiffres, ils sont peut-être pas tout à fait exacts. On a vu en France les difficultés qu'on avait avec les chiffres au début. L'épidémie semble s'être déclarée un petit peu plus tard là-bas aussi que dans nos pays. Mais il faut rester prudent, on ne sait pas ce que ça peut donner après. On a vu dans d'autres pays comme ça peut tout à coup exploser, donc on ne sait pas. On reste prudent. Par contre, ce qui a tout de suite eu un impact très très fort, c'est les mesures restrictives qui ont été prises par le gouvernement, les mesures de prévention et qui étaient très utiles. Soit le confinement dans certains pays, la fermeture des écoles, l'interdiction des rassemblements, la fermeture des marchés, tout ça, ça a eu des conséquences sur le quotidien des habitants, des conséquences pour les enfants qui n'ont pas été à l'école, mais aussi des conséquences économiques pour les familles qui travaillent, dont les parents, les familles travaillent souvent au jour le jour, dans les marchés ou avec des professions où c'est un travail au quotidien, où les gens gagnent leur vie chaque jour, ce dont ils vont avoir besoin pour vivre chaque jour. Donc ça a eu des conséquences économiques importantes sur ces populations déjà souvent fragilisées.
Alors, le sel travaille avec ce qu'il appelle des partenaires locaux, c'est-à-dire des organisations chrétiennes locales avec du personnel local. Et vous suivez ces organisations qui conçoivent, qui mettent en œuvre les projets de développement. Comment est-ce que les partenaires du sel ont réagi?
Alors, la crise, elle s'est déployée là-bas un petit peu plus tard, quelques jours plus tard que chez nous. Donc au tout début, ce qu'on a reçu de la part des partenaires, c'est des messages d'encouragement, mais vraiment plusieurs par jour et de quasiment tous les partenaires qui nous ont dit qu'ils priaient pour nous, qui nous ont encouragés à relire les psaumes, qui nous envoyaient vraiment des paroles très très fortes. On s'est vraiment sentis en communion avec eux, on s'est vraiment sentis soutenus par nos partenaires en cette période difficile, à la fois nous le personnel du sel, mais aussi ils nous ont dit qu'ils priaient pour tous les donateurs, qu'ils priaient pour les Français, qu'ils priaient pour le gouvernement. Et ça nous a vraiment touchés.
Ça montre une sorte de partenariat qui va dans les deux sens.
Voilà, voilà. C'était vraiment une façon pour eux de dire, ben voilà, aujourd'hui, nous, on est en capacité de faire quelque chose pour vous. On peut prier pour vous et on le fait avec joie et avec fidélité. Et ça nous a vraiment touchés. C'était quelque chose de très, très fort les premiers jours. Et puis bon, mais malheureusement, très, très vite, les mesures restrictives sont arrivées. La première chose qui a été très, très impactante, c'est la fermeture des écoles. Donc nous, on soutient un grand nombre de projets de tickets repas. Hein. Les tickets repas, pour la plupart, ce sont des cantines scolaires ou préscolaires, donc en lien avec les écoles. Et elles ont été fermées. Et ça, ça a eu un très gros impact sur les enfants, puisque pour beaucoup d'enfants, ce repas était le seul vrai repas de la journée. Donc il a fallu tout de suite réagir. Et nos partenaires, là, ont fait un travail excellent, c'est-à-dire que tout de suite, ils ont converti leur aide de repas réguliers en kits de vivres qui ont été distribués aux familles, hein, voilà, par exemple un sac de riz, de l'huile, du sucre, des haricots. Chacun à sa façon, en fonction de la disponibilité des produits, a pu distribuer aux familles des kits. Enfin, je dis a pu, mais ça continue aujourd'hui, hein, puisque les cantines sont toujours fermées et la plupart des écoles sont toujours fermées. Donc, ils continuent à distribuer ces kits de vivres aux familles. Ça va souvent au-delà des enfants qui étaient accueillis à la cantine, puisque en fait c'est toute la famille qui est impactée. Les parents souvent ne peuvent pas travailler comme avant, donc c'est nécessaire que ces vivres puissent aussi servir à nourrir toute la famille. Donc ça, c'est la première mesure qui s'est mise en place très très vite. Et puis pour les autres partenaires, la plupart ont pu continuer les projets, mais bon, souvent c'est ralenti parce que il y a eu des restrictions des déplacements, des restrictions des rassemblements. Donc par exemple pour les formations, souvent, on a un partenaire au Congo qui travaille, qui mène beaucoup de formations. Donc, les rassemblements de 20 personnes, au-delà de 20 personnes, étaient interdits. Du coup, il a fallu faire des formations en petit nombre, avec des masques. Voilà, donc ça a nécessité une réadaptation de la plupart des projets. Mais bon, les partenaires ne se sont pas découragés. Hein. Chaque fois que c'était possible, ils ont continué à mener leurs projets, bon, de façon plus compliquée, plus ralentie. Quelques projets ont dû s'arrêter, mais je pense par exemple à des projets agricoles qui, pour la plupart, ont pu continuer, puisque ben, les paysans qui étaient dans leurs champs, ils ont pu continuer bien sûr à cultiver. On a quelques partenaires, par exemple, je pense aux partenaires qui travaillent dans le domaine du microcrédit. Eux, ils ont été pas mal impactés parce que les personnes qui bénéficient des crédits sont souvent des commerçants qui travaillent au marché. Et là, comme les marchés ont été fermés, ben, les personnes n'ont pas pu mener leurs activités comme d'habitude et donc ont eu un peu de difficulté à rembourser les crédits. Donc, il a fallu mettre en place des mesures de s'adapter, hein, permettre un rééchelonnement du remboursement. Donc, voilà, c'est des adaptations. Hein. En fait, ils ont vécu les mêmes choses que nous, hein, des adaptations de leur travail.
Pour nous en France, on a énormément parlé pendant cette période, et on en parle encore, de ce qu'on a appelé les gestes barrières, tout ce qui va dans le sens de la prévention et d'essayer de casser l'épidémie pour qu'elle ne puisse pas se répandre. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont faites par les partenaires du SEL?
Oui, bien sûr. Ça c'est quelque chose de très très important. Alors, par exemple, à titre d'exemple, au niveau des projets tickets repas, j'ai parlé tout à l'heure de la distribution des kits de vivres, mais cela s'est souvent accompagné, enfin, toujours d'ailleurs, hein, chaque fois qu'ils ont visité les familles, ils ont reparlé des gestes barrières, ils ont aussi, dans plusieurs des cas, permis aux familles d'avoir un dispositif lave-main, donc quelque chose pour se laver les mains à la maison. Hein. On sait que la question de l'eau est une difficulté récurrente dans les ménages pauvres. L'accès à l'eau est vraiment une question qui devient criante là aujourd'hui. Donc ils ont pu accompagner les familles pour qu'elles mettent, soit elles construisent elles-mêmes un dispositif lave-main à la maison, ce qu'on appelle le tipi-tap, hein, c'est un dispositif très simple mais qui permet de se laver les mains facilement. C'est juste un bidon qui bascule. C'est compliqué d'expliquer le dispositif comme ça, mais bon, ils ont pu faire ça. Et puis plusieurs de nos partenaires ont équipé aussi les lieux publics, les églises, les marchés, les mairies, le bureau du chef du village, de dispositifs lave-main. Et puis, ils ont aussi mené des campagnes de sensibilisation hein, pour rappeler les gestes barrières, surtout expliquer combien le lavage des mains était important, et puis expliquer que le virus, ben, il existe vraiment. Parce qu'on a eu la situation dans plusieurs pays où il y avait une espèce de... Oui, plusieurs personnes niaient l'existence même du virus. Et là, c'était important de dire que non, cette maladie, elle existait vraiment et on pouvait la combattre par des gestes simples, par des pratiques simples. Et le fait de se laver les mains, de la distanciation, de port du masque aussi, c'était très, très important. On a aussi des partenaires qui ont très vite mis en place des ateliers de fabrication de masques. Parce que, on l'a vu aussi chez nous, on s'est mis à fabriquer des masques, mais là-bas aussi. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la couture déjà. Ça, c'est un métier qui existe beaucoup. Et on a beaucoup de professionnels, hein, de couturiers, et ils se sont mis à amplifier cette fabrication de masques pour pouvoir soit les distribuer à coût social aux plus pauvres, soit les vendre aussi. Mais en tout cas, ça, c'est une activité qui s'est beaucoup développée.
Alors vous avez l'habitude, vous-même et puis les personnes qui travaillent dans votre département, d'être en contact direct avec ces partenaires, notamment en allant leur rendre visite. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est plus possible maintenant. Et pourtant, je pense que c'est aussi l'une des sources d'encouragement et de motivation dans votre travail, de pouvoir voir de vos propres yeux ce qu'ils réalisent. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus encourageant dans cette période, dans ce que vous avez pu malgré tout percevoir à distance de l'action des partenaires?
Alors étonnamment, on est resté très très proche des partenaires. Hein. Et là, c'est vrai que les moyens technologiques à notre disposition, ils sont pour beaucoup. On s'est beaucoup téléphoné, on a beaucoup utilisé WhatsApp, on est resté en contact le plus proche possible de nos partenaires. Bon, bien sûr, on est très frustrés de ne pas pouvoir aller sur place pour l'instant. Je ne sais pas quand ça sera de nouveau possible, on espère rapidement. En tout cas, on a dû suspendre les visites terrain qui étaient prévues pour les prochains mois. Mais on reste en contact, ils nous envoient des vidéos aussi, beaucoup de photos. Ça nous permet quand même de suivre à distance ce qui est fait et j'allais dire presque de voir au fur et à mesure ce qui se fait. Ils nous ont aussi enregistré des petites vidéos de la part des bénéficiaires qui nous saluent, qui nous disent ce qu'ils font. Donc on reste quand même malgré tout très proche et j'ai l'impression qu'on est presque devenu plus proche de certains pendant cette période.
Merci beaucoup Madame Lavouet d'avoir bien voulu répondre à mes questions et de nous avoir donné des nouvelles qui sont positives malgré les circonstances qui sont parfois vraiment très difficiles que les partenaires du SEL et les populations qu'ils servent doivent traverser. Et donc tout cela c'est quelque chose que le SEL peut soutenir grâce aux dons et au soutien de son public en France. Et nous avons donc ouvert un fonds Covid-19 pour soutenir des actions dans ce domaine. Et si certains de nos auditeurs voulaient y participer, c'est encore possible. Comme l'a dit Madame Lavouet, ce sont des actions qui sont encore en cours et qui ont encore besoin d'être financées. Et pour participer aux actions des partenaires du SEL, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.selfrance.org. www.selfrance.org et depuis la page d'accueil, vous trouverez toutes les informations sur ce que le SEL soutient avec ses partenaires dans ce domaine et sur les moyens de nous soutenir pour que nous puissions continuer le travail avec nos partenaires. Nous avons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.